La première des choses à faire en cas de non-compréhension permanente, c'est de se mettre en état d'approche globale. Après, faut voir. Implacable. Après avoir lu l'illisible, il est temps d'écouter l'inaudible. Volume 6. Bonjour, je suis Walter Proof. Vous écoutez l'inaudible, le podcast de l'illisible. http://walterproof.free.fr/l'illisible. Et je ne peux que vous en féliciter. Vous êtes 244 visiteurs différents à être venus sur le site de l'inaudible le mois dernier. Et 71% à être repartis aussi sec, je vous comprends. 14% sont toutefois restés plus d'une heure. À mon avis, ils se sont endormis. Alors au sommaire de ce volume 6, une importante problématique sur la phénoménologie du paquet de Mido, la suite de notre grande enquête sur l'incompatibilité structurale de l'être, l'invité de Lulu, Hubert Félix de Courbon-Busset, un jeu, le Kiki a dit, de la musique et bien sûr des fulgurances comme d'habitude. Vous connaissez la recette, un volume d'inaudible pour deux volumes d'illisible. Attention, ne le noyez pas, l'inaudible, c'est meilleur quand c'est fort. N'a jamais entendu dans son enfance cette phrase sibylline et néanmoins proéminente « Si tu vas à Super U, prends-moi un paquet de Mido ». Ah, le fameux paquet de Mido de notre enfance. Que de souvenirs n'évoque-t-il pas, sitôt qu'on se prend à s'en souvenir. Que d'évocations évoquées et de souvenirs souvenus. Que de cerises et que de cheval. Que de quoi que ce soit, bref. Et pourtant, vous qui acquittez sans nul doute main paquet de Mido dans votre enfance tumultueuse, avez-vous la moindre idée de l'origine originale de ce phénomène phénoménal? La moindre idée sensée, s'entend. Connaissez-vous les fondements de l'origine des balbutiements du début de la naissance de la chose? Savez-vous au moins de quoi je parle? Non? Je m'en doutais. Il était donc grand temps que j'intervinsse. James Wilfrid Abécassis Mido est né à Lannemezan en l'an de grâce Kelly 1777. Tout petit déjà, il n'était pas bien grand. Par la suite, ça n'allait pas s'arranger. Recalé au petit séminaire de Rochegneux-les-Balustres pour cas de force majeure, il était très costaud malgré sa petite taille, il décide de s'engager dans le 4e régiment des Zouaves de Marine, où il est affecté au poste de directeur des relations publiques avec grade de chef lampiste. Parallèlement, il développe, outre un système pileux particulièrement remarquable, une aptitude au calcul binaire d'autant plus étonnante que cette discipline n'est même pas encore inventée. C'est en janvier 1888, un mardi à 21h14, qu'il invente la théorie qui restera célèbre sous son nom, le paquet de Mido. La nuit est fraîche, les étoiles molles, et James Wilfrid Abécassis Mido, planté à sa table de travail, devant son bec benzène, sur lequel mijote une potée au lardon de la veille, est songeur. Quelque chose le tracasse. N'a-t-il pas oublié quelque chose? Ne manque-t-il pas quelque chose? S'est-il passé quelque chose? Quelque chose a-t-il bougé? Y a-t-il quelque chose? Sortant le calepin sur lequel il note toutes les idées qui lui traversent l'esprit, ne fût-ce que fugitivement, il tourne fébrilement les pages cornées jusqu'à celles qu'il cherche. Voilà, c'est ici. « Recette de la potée au lardon par W.A. Mido. 1. Se munir d'une belle potée. 2 ou 3 kilos est un bon poids. De la veille sera préférable. 2. Faire cuire à feu doux pendant 3 ou 4 heures. Réservé. 3. Préparer les lardons séparément sur un appui de fenêtre de préférence. Hacher grossièrement au moyen d'une hache émoussée. Réservé. 4. Rajouter la farce préparée séparément au mélange mélangé à part. Réservé. 5. Réservé. Mais bien sûr, James Wilfried Abécassis Mido se frappe violemment le front au moyen de sa main la plus proche. Le sel. Voilà ce qui manque. Un grand rire déforme brièvement son beau visage de plâtre grec. Puis il hèle son fils, le jeune Gustave Amédée, âgé de 9 ans à peine, et qui passe ses journées à griffonner des équations du second degré sur un buvard malpropre, tout en rêvant à ce qu'il ferait quand il aurait découvert la théorie de la relativité clandestine. Gugus, le L, James Wilfried. Il l'appelait Gugus quand ils étaient seuls. Va donc chez Super U et demande-leur un paquet de sel. Demande le paquet de Mido, ils savent lequel c'est. Il n'en fallait pas plus pour qu'un mythe ne naquît. Dès le lendemain, la théorie du paquet de Mido, signée Gustave Amédée Mido, était à la une de la Gazette du mathématicien, en vente dans tous les kiosques, 2,50€ seulement. Une page de la recherche fondamentale était tournée. Mais dans quel sens? Nul ne l'a jamais su. Lors du dernier volume de l'Inaudible, nous avions laissé notre grand reporter Jacques-Yves Couchetard de Clermont-Tonnerre en pleine expérimentation de l'incompatibilité structurale de l'être. Il semblait avoir trouvé le bon rythme. Retrouvons-le tout de suite au troisième jour de son test, scrupuleusement enregistré pour vous.
Mercredi, 10h10. Ah, je ne vois plus le temps passer. C'est un tel plaisir de structuraliser la finition que je pourrais continuer comme ça des heures. Bon, allez, pas de folie. Il vaut mieux arrêter pour aujourd'hui.
Comment, hein? Ah, c'est fini? Bon, l'avantage comme ça, c'est que c'est plus court. À suivre, donc. Si vous preniez la peine de vous prémunir contre les interprétations abusives, alors vous n'auriez pas besoin de vous en référer à la responsabilité morale ou autre faribole pseudo-déontologique. Mais je sais bien qu'en disant ça, je prêche dans un violon. On le décrit tyrannique, exigeant, impossible à vivre, on le dit inabordable, imbu de lui-même, enflé du chou. Hubert Félix de Courbon-Busset est pourtant l'être le plus exquis de la planète, le plus gentil, le plus accessible, le mieux disposé du monde. Un homme à qui la méditation transcendantale et la soupe aux poireaux ont apporté une joie de vivre et un sens de l'humour qui enrichissent tout un quotidien déjà bien servi en bonté d'âme et autres facéties douteuses. Un homme qui n'hésite pas à accueillir le plus infime moment de sa vie comme une bénédiction rituelle, susceptible de servir d'entrée en matière à l'étape suivante de sa longue initiation personnelle. Si vous n'avez jamais entendu parler de lui, c'est le moment ou jamais de faire connaissance avec Hubert Félix de Courbon-Busset, l'homme dont on aurait volontiers dit qu'il était à lui seul une source de totale plénitude, si l'expression n'avait hélas déjà été utilisée pour un autre, beaucoup moins sympathique au demeurant. Hubert Félix de Courbon-Busset vient de publier le 27e volume de son journal d'un taré planétaire aux éditions Jeanne Calment-Lévy. Lulu l'a lu.
La bibliothèque de son somptueux 12 pièces est le refuge privilégié d'Hubert Félix de Courbon-Busset. C'est là qu'il aime se retirer, loin des rumeurs de notre monde si oppressant, pour consulter les ouvrages kabbalistiques qu'il affectionne particulièrement, comme le Bardo Tedol, le livre des morts tibétains, ou Pif Gadget. C'est là, dans cet endroit ô combien symbolique, que j'ai eu le privilège de rencontrer le maître du post-significationnisme introspectif. Bonjour, maître.
Bonjour.
Cette pièce est particulière. Une atmosphère, comment dire ?
Pesante, non ?
Oui, un peu.
C'est à cause du plafond. Quand Michel-Ange Lapin, il a voulu recréer l'ambiance de sa cuisine à Pantin. Et tout de suite, ça a foiré.
Comment cela ?
Foiré, tout simplement. Vous savez, Michel-Ange ne s'appliquait pas beaucoup. Il torchait pas mal, en fait.
Ah bon ?
Oui, on a raconté beaucoup de bêtises sur sa vie. Beaucoup. Mais finalement, ce n'est pas ça le plus terrible dans son cas.
Comment expliquez-vous toute cette agitation médiatique autour de vous, ce remue-ménage permanent ?
Je ne l'explique pas réellement. Tout ce qui se dit à mon sujet, j'y suis bien étranger. Je suis un peu comme ces tortues géantes qui hibernent à l'intérieur de leur carapace. Sauf que ma carapace à moi serait plutôt un jardin en terrasse. Une sorte de méga-fusion expérimentale, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas vraiment ce que vous voulez dire, si ?
Non, bien sûr que non. On ne peut pas toujours dire tout et son contraire. Vous connaissez l'adage zen, le sage ne peut pas à la fois avoir le beurre du yak, l'argent du beurre du yak et la crémière de l'argent du beurre du yak.
Et comme c'est vrai.
Non, ce n'est pas vrai, c'est même on ne peut plus faux. Je crois savoir que le sage était complètement pété lorsqu'il a dit ça. Et ses disciples se sont empressés de le colporter, alors que le sage, lui, avait tout oublié dès le lendemain.
Revenons à vous. Est-ce que vous envisagez de répondre aux critiques qui vous ont été adressées après la publication de votre dernière œuvre, Une philosophie guerrière au service de la débandade matérielle ?
Pas le moins du monde, ou bien alors très rapidement. Et je vais vous dire, moi, ce qui m'occupe avant tout, c'est la sociologie contemplative, pas la volaille. Le jour où les andouilles feront du judo, on n'aura plus besoin de chef de garde.
Voilà qui est envoyé. Mais pensez-vous réellement qu'un bon repas sans fromage est comme une fille sans œil, comme vous le dites dans « Étape de la libido intracrânienne », entretien avec Elie Diesel, dans Le Monde diplomatique, 3 mars 1915 ?
C'est ce que j'ai dit, et je n'ai pas de raison d'y revenir.
Même sous la torture ?
Même sous la torture.
Comment envisagez-vous le siècle qui commence ?
Avec circonspection. Il n'est pas impossible que nous soyons au début d'une ère de mutation. Une période très comparable à la Renaissance gallo-romaine, un peu comme une orgie paganiste qui aurait peur de dire son nom. Pour quelle raison ? Là, ce n'est pas à moi de le dire. Mais je crois que les décideurs devraient y réfléchir sérieusement. Les signes avant-coureurs sont clairs, à eux de les interpréter et d'en tirer les leçons.
N'êtes-vous pas un peu alarmiste, là ?
Si c'est être alarmiste que de montrer du doigt l'imminence de l'orage, si c'est être alarmiste que d'attirer l'attention sur les prolégomènes sociaux, si c'est être alarmiste que de réfuter les arguments partisans de tous ces futurologues constipés du cerveau, alors vraiment je réponds, non, je ne suis pas alarmiste.
Que diriez-vous à tous ceux qui attendent de vous une réponse à leur angoisse existentielle ?
Je ne leur dirai rien. C'est le meilleur service qu'on puisse leur rendre à tous ces cons. L'angoisse existentielle, comme vous dites, c'est le fardeau le plus répandu au monde. Il suffirait de la couper en tranches bien fines pour obtenir de quoi nourrir l'ensemble de la population du tiers-monde. Ce n'est pas à moi d'y porter remède.
Mais vous y consacrez pourtant un volume entier de votre journal.
Bien sûr, mais c'était pour déconner. Vous aurez beau aligner toutes les virgules possibles et ventiler toutes les dissections jamais réalisées en ce monde, vous n'obtiendrez jamais qu'un gros tas de rien du tout. Prenez-le dans tous les sens, vous verrez que j'ai raison. Et quand je dis rien du tout, je veux vraiment dire rien du tout.
Pourriez-vous imaginer, d'une manière ou d'une autre, une négation linéaire qui n'aurait pas de lien direct avec les autres fonctions organiques du continuum spatio-temporel ordinaire ?
Ah, la négation linéaire, eh oui, j'étais sûr qu'on finirait par y venir, à un moment ou à un autre.
Ah, les auditeurs ont le droit de savoir.
Bien sûr, et moi aussi j'ai le droit de préserver un certain doute là-dessus. Mais bon, je veux bien vous donner quelques éléments de réflexion sur ce sujet. Cette fameuse négation linéaire, avec laquelle on nous taille les oreilles en pointe dans tous les journaux et tous les talk-shows télévisuels, ce n'est rien d'autre qu'une camisole bien serrée, avec laquelle on vous empêcherait presque de respirer.
Comme vous y allez.
Ah, je sais, mais il faut bien y aller comme ça, si on veut essayer de rectifier toutes ces idées si fausses qui font le régal des maîtres à penser en rond. Déjà que le continuum spatio-temporel n'est pas toujours rigolo, imaginez un peu ce qui se passerait si en plus il fallait le certifier conforme à chaque instant, rien que pour garder bien au chaud la réalité intrinsèque. Moi je dis qu'il ne faut pas avoir peur de taper du poing sur la table quand il le faut, afin de garder les pieds sur terre en toutes circonstances. Il n'y a que les imbéciles qui mangent à tous les râteliers.
Nietzsche ?
Non, ma grand-mère.
Tout ça n'est-il pas finalement un peu déprimant ?
La déprime, figurez-vous, c'est la base de toute philosophie un tant soit peu progressiste. Tous les plus grands sont passés par là. Kant, Marx, Schopenhauer, c'est Jérôme, tous. Il n'y a pas pire sourd que celui qui n'a pas d'oreille. Et encore, il faudrait vérifier un à un tous les cas de figure où la marque du destin a permis au génie incompris de s'imposer dans l'esprit des masses. Je suis persuadé qu'il n'y a pas grand-chose à tirer de tout cela, sinon que la vérité est la meilleure et la pire des oboles qu'on puisse faire à une âme dans le besoin. Il n'y a pas deux façons de s'en sortir. Il suffit qu'une hirondelle fasse le printemps pour que tout le monde crie au miracle. Mais le vrai miracle, ce n'est que la consécration des imbéciles. Comme s'il suffisait de s'arrêter en route et de se retourner pour voir les notions récurrentes régresser comme un feu de paille. Il n'y a pas de raison que ça cesse.
C'est tout le mal qu'on vous souhaite.
Vous savez, il n'y a qu'une certitude en ce bas monde. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais je suis sûr qu'un jour, il fera vraiment jour.
Une nouvelle rubrique dans l'inaudible, et c'est un jeu. Désormais, dans chaque volume, je vous ferai entendre un extrait d'un texte, dit par son auteur, célèbre bien sûr. Si vous trouvez de qui il s'agit, n'hésitez pas, la rubrique commentaire de l'inaudible vous attend. Je vous donnerai la réponse dans le volume suivant, ça s'appelle « Le qui a dit ». Alors, premier jeu, facile pour commencer, écoutez bien. Qui a dit
« Tout le Moyen-Âge » a été basé sur la transmutation de la matière vile en or, puisque l'unique façon de spiritualiser la matière, c'est de l'aurifier. Alors, aussitôt que quelque chose devient de l'or, devient de la puissance.
Oh, c'est facile. Si vous avez trouvé, dites-le sur wproof.podemus.com. Bon allez, c'est l'heure d'écouter un peu de musique. Aujourd'hui, l'inaudible tire son chapeau à deux petits Canadiens, Dave et Gary, du Chub Creek Podcast, en ligne sur le Podsafe Music Network, music.podshow.com, ça s'appelle Truth.
They hate us with every fiber of their existence.
Yes, but it's for the future, so get used to it.
Yeah.
Truth, musique composée par Gary et Dave pour le Chum Creek Podcast à l'adresse http://www.chumcreek.com. Tous les détails sur www.podemus.com. C'est inaudible, c'est sur l'inaudible. Passé glorieux n'exclut pas avenir foireux. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Les mauvaises aussi, d'ailleurs, rassurez-vous. Pour des précisions plus précises, ou des approximations moins approximatives, n'hésitez pas à faire un tour sur le blog de l'Inaudible, http://www.podemus.com. Vous y trouverez notamment toutes les références des musiques libres, profitez-en, tant qu'elles le sont encore, utilisées dans ce podcast. Et puis si vous n'avez pas tout compris, faites un saut sur le blog de l'Illisible, http://walterproof.free.fr/l'Illisible. Vous ne comprendrez peut-être pas plus, mais au moins vous pourrez laisser un commentaire avisé ou une étiquette vermoulue, ça fait toujours plaisir. Je suis Walter Proof, c'est tout le mal que je vous souhaite. Bonsoir, et à bientôt. Peut-être.